Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Sylvain Maillard, député de Paris, La République En Marche. Bonsoir.
Bonjour Loïc Barrière.
Sylvain Maillard, vous avez été chargé de piloter la réforme de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Le texte est attendu pour le printemps. Concrètement, sur l'apprentissage, qu'est-ce qui va changer pour les jeunes ?
D'abord, nous allons faciliter profondément, réformer profondément l'apprentissage. L'apprentissage, c'est 400 000 jeunes à l'heure actuelle, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, qui font l'apprentissage, c'est-à-dire deux fois moins que ce qu'ont nos amis allemands ou suisses, par exemple, ou autrichiens, deux fois moins. Et d'ailleurs, dans ces sociétés-là, dans ces pays européens amis, il y a deux fois moins de chômage qu'en France. Peut-être qu'il y a aussi un lien. En tout cas, je fais ça avec une petite malice. Nous, l'idée, c'est assez simple. C'est de lever l'ensemble des verrous qui bloquent depuis tant d'années l'apprentissage avec cette image dégradée. Bah, tu feras apprenti si tu n'as pas réussi dans ton cursus classique.
Ce ne sont pas des filières d'échecs.
Non seulement ce ne sont pas des filières d'échecs, ce sont des filières d'excellence. Et d'ailleurs, quand vous regardez les résultats d'entrée en CDD, CDI, énormément de CDI, de création d'entreprise. 60% des apprentis créent leur entreprise plus tard. C'est juste incroyable à quel point c'est méconnu. Ce sont des filières où vous gagnez plutôt mieux votre vie que dans bon nombre de filières dites classiques universitaires. Bref, ce sont des filières où on recrute, mais qui sont très méconnues. Méconnues parce qu'en amont, on les explique mal, méconnus aussi parce qu'il y a un imaginaire français qui veut que faire un métier manuel est moins noble qu'un métier littéraire, classique.
Et pourtant, si on remonte dans le temps, il y avait les compagnons du Tour de France.
Alors, les compagnons du Tour de France et compagnons du devoir, c'est presque l'inverse. Mais c'est une petite partie de l'apprentissage à l'heure actuelle en France. Donc l'idée, c'est assez simple, en fait, c'est de lever les verrous de ce qui bloque. D'un point de vue de l'élève, peut-être qu'on aura l'occasion de revenir dessus sur l'ensemble de ce qu'on va lever sur l'apprenti, non seulement de flexibilisation, lui, de son parcours, de pouvoir évoluer au sein de son année scolaire, de ne plus être bloqué, s'il perd son entreprise, de pouvoir quand même passer son diplôme, de pouvoir changer d'employeur, de pouvoir partir en Europe aussi. L'Erasmus+, ça c'est une grande avancée, de dire de pouvoir se confronter dans d'autres pays européens, comme le font les autres étudiants, à un savoir-faire différent. Et puis les entreprises, que ce soit plus facile de recruter un apprenti avec moins de complications administratives, un ensemble de cotisations qui faisait que ça devenait totalement illisible de savoir ce pourquoi vous payez dans l'apprentissage. Et puis, je dirais, dans le cursus classique du CFA, et là, je vous redonne tout de suite la parole, CFA, c'est important parce que c'est le centre de formation des apprentis. Là, on veut non seulement doper les plateaux techniques, parce que c'est là où on apprend et qu'il nous faut des plateaux techniques de haut niveau, mais aussi permettre de connaître les vrais chiffres, les vrais ratios, pour que quand vous décidez de partir en apprentissage, vous sachiez quelles sont vos possibilités d'avoir un CDI à la sortie, la rémunération moyenne, le taux de réussite de votre CFA, bref, de mettre en concurrence l'ensemble des CFA.
Le salaire des apprentis, c'est pas un salaire au rabais ?
Le salaire des apprentis, ça a toujours été une question parce qu'il faut toujours arbitrer entre l'entreprise qui investit dans un apprenti. La première année, un apprenti, il coûte de l'argent à l'entreprise. Mais il faut qu'il puisse vivre à côté. Donc, essayer de trouver un salaire décent pour que l'apprenti puisse vivre et que l'entreprise ait volonté, ait envie de prendre un apprenti. Souvent, on dit qu'un apprenti devient, entre guillemets, rentable la troisième année uniquement. Deuxième un peu, troisième année. Donc, il y a un vrai investissement de l'entreprise. Nous, ce sur quoi on s'est engagé, c'est d'abord, de 16 à 20 ans, de revaloriser de 30 euros par mois, net, la rémunération de l'apprenti. Et puis, au-dessus de 26 ans, parce qu'on va emmener de 26 jusqu'à 30 ans, on pourra être apprenti jusqu'à 30 ans, de 26 à 30 ans, d'être payé le SMIC. Donc là, c'est un engagement fort aussi des partenaires sociaux de dire il faut payer les apprentis tout en restant quand même dans le principe du fait qu'on est dans un apprentissage et que dans un apprentissage, il faut que l'entreprise puisse s'y retrouver aussi.
Imaginons un jeune qui est actuellement au chômage, qui a décroché, comme on dit. Est-ce que cette filière de l'apprentissage, ça peut être pour lui une deuxième chance ?
Évidemment, mais c'est aussi une première chance. C'est aussi de se dire, on va avoir différents rendez-vous que on va organiser à partir de la troisième, rendez-vous avec des entreprises, des branches qui viendront directement dans les collèges, dans les lycées, pour venir au contact des jeunes et pour leur expliquer les métiers sur lesquels ils recherchent du monde. Expliquer la technicité, savoir décrypter, parce qu'il y a énormément de métiers qu'on ne connaît pas finalement. Quand vous avez 17-18 ans, vous connaissez quoi ? Le métier de vos parents, le métier peut-être des voisins, un peu de la famille, mais en réalité, vous ne connaissez pas grand-chose comme métier. Et donc se dire, on part sur le fait d'ouvrir beaucoup plus le monde de l'entreprise dans le monde de l'éducation pour qu'il puisse y avoir un choix bien plus en amont. Moi, je pense que beaucoup d'étudiants, de scolaires, vont se dire, attends, moi, c'est ça qui me plaît, c'est ça que j'ai envie de faire. J'ai pas envie de rester dans des voies classiques. Moi, j'ai une passion et que cette passion peut devenir mon métier, ou je sens que ça va me plaire comme métier. En plus, je vais bien gagner ma vie, je vais avoir du boulot, mais il faut partir très tôt, au contraire.
Alors, les présidents de région, Sylvain Maillard, vous reprochent d'avoir fait sortir l'apprentissage de leurs compétences. Il y a une exception, Xavier Bertrand, qui vous soutient. Pourquoi avoir confié plus de prérogatives aux branches professionnelles au détriment des régions ?
Ça a été un des points compliqués dans la négociation sur l'apprentissage. Qui est une question, j'ai eu l'occasion de rencontrer le président des régions de France, Hervé Morin, et avec, à juste titre, il défend un point de vue où je crois que nous avons trouvé un point d'équilibre. Il défend le point de vue que les régions, et à travers les CFA, font de l'aménagement du territoire. C'est vrai, ça s'entend. Nous, on cherche évidemment de l'efficacité pour que l'ensemble des CFA soit rempli, parce que la réalité des choses aussi, c'est qu'énormément de places d'apprentis financées par l'impôt des Français, ne sont pas prises. Et donc, on a des CFA qui sont en partie, en tout cas, qui ont des places vides. Il y en a beaucoup. Et donc, on a cherché un point d'équilibre et je crois que nous avons trouvé. On donne la direction, l'organisation aux branches, parce que c'est elles qui savent le mieux quels vont être les métiers en tension, quels vont être les métiers dans lesquels on va rechercher du monde. Et puis, ensuite, elles sont aussi, du coup, garantes des apprentis qu'elles vont prendre sous leurs ailes. Et puis les régions auront toujours leur mot à dire. Parce qu'elles, elles vont être là pour aider les CFA à s'implanter un peu partout dans leur région, donner des aides significatives pour rapprocher les lycées pro et les centres de formation d'apprentis pour avoir ces fameux plateaux techniques et d'atteindre un niveau d'utilisation du plateau technique qui nous permet de trouver un équilibre financier, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Donc il y aura vraiment une incitation de la région pour implanter à tel ou tel endroit un CFA.
Dans le texte que vous allez écrire, vous allez notamment vous intéresser à la législation des mineurs, la façon dont ils vont travailler auprès des professionnels. Aujourd'hui, c'est très encadré, le travail des mineurs.
Alors, la réalité des choses, quand on se penche dessus, il y a aussi beaucoup de fantasmes. La réalité des choses, c'est que dans assez peu de cas de figure, mais c'est les cas de figure qu'on connaît, en fait, il y avait une vraie difficulté. Cette difficulté, on va la lever. C'est le cas des boulangers, où le mineur ne peut pas commencer avant 6 heures du matin. Évidemment, le pain se cuit avant, donc c'est-à-dire qu'il ne participe pas à la fabrication du pain, ce qui est un peu bizarre pour un apprentissage. Donc ça, nous allons lever cette interdiction qui permettra à un mineur d'être au début de la fabrication du pain avec le boulanger, avec son maître de stage, pour apprendre le métier. Il y a eu un deuxième cas concret qui nous a été relevé, c'est dans le bâtiment, où on a des forfaits de 35 heures, ce qui veut dire qu'un jeune, par exemple, a fini le vendredi midi, ses 35 heures, et donc reste, parce qu'il n'a pas le permis de conduire, ou il n'a pas de voiture, donc il reste dans la camionnette de son maître de stage, et les regarde travailler jusqu'à 7h, 8h du soir, donc passe son temps à regarder, et ne peut plus travailler parce qu'il a épuisé son quota et les attend une partie de l'après-midi. Donc ça, pareil, nous allons lever en mettant un maximum de 40 heures, mais qui permettent tout au cycle de la construction que l'apprenti soit présent sur le terrain, parce que sa vocation, c'est d'être au contact de son tuteur pour apprendre les gestes.
On a une idée de l'impact de cette mesure sur le chômage, puisque vous l'avez évoqué tout à l'heure.
c'est toujours compliqué de s'engager sur des chiffres sur lesquels on n'a pas la main, je dirais. La réalité des choses, c'est que dans toutes les sociétés où l'apprentissage fonctionne, je vais vous parler des Allemands, des Suisses, des Autrichiens, où il y a vraiment une... les entreprises s'engagent sur la construction de beaux plateaux techniques, l'accompagnement des apprentis, on a toujours un chômage des jeunes deux fois inférieur à celui de la France. Donc il y a forcément un lien. Et ce que l'on voit bien, ce que nous disent les entreprises, c'est qu'elles ont un manque de compétences dans énormément de métiers. Et ces métiers-là correspondent très très bien à l'apprentissage. Il faut qu'on puisse flécher des jeunes qui sachent, en tout état de cause, il y a un métier qui peut les intéresser, qu'ils ont envie de faire ce métier, et que ce métier, non seulement est sécurisant parce qu'il y a du travail derrière, mais ils gagnent très bien leur vie.
Le président Macron veut aller vite. Sylvain Maillard, quand est-ce que cette réforme sera appliquée, notamment pour que les jeunes puissent avoir un horizon?
Alors, on a le process démocratique parlementaire est toujours un peu long, mais c'est vrai qu'on a toujours dit que la transformation économique de notre pays, il fallait que nous ayons voté l'ensemble des grandes réformes avant la fin 2018. Pour le cas de l'apprentissage, la formation professionnelle, l'indemnisation chômage, qui seront un texte ensemble, on a une session qui est prévue fin avril, début mai, probablement plus début mai, avec, nous espérons, en tout cas, un vote définitif, parce que ça passe au Sénat, que ça revient en commission mixte paritaire, un vote définitif début août.
Donc, pour la rentrée, ça devrait être mis en application, Sylvain Maillard.
L'idée, en tout cas, c'est de se préparer pour être prêt pour cette rentrée-là, et, ou en tout cas, si ce n'est pas cette rentrée-là, au cours de l'année 2019, d'être en capacité de faire profondément évoluer le système.
Autre réforme annoncée, Sylvain Maillard, celle du statut des cheminots. Les nouveaux embauchés ne pourront plus bénéficier de ce statut. Est-ce que c'est l'une des réformes les plus difficiles du quinquennat pour Emmanuel Macron?
Toutes les réformes peuvent être difficiles. Il faut qu'elles soient bien expliquées et qu'elles aient une vraie justification. Nous, on parlait d'apprentissage. On ne fait pas une réforme pour faire une réforme. On fait une réforme parce que ça ne marche pas. La formation professionnelle, on fait une réforme parce que ça ne marche pas suffisamment vu les sommes engagées. La SNCF, c'est la même chose. On s'aperçoit quoi? On a une société, la SNCF, qui a de plus en plus de mal à rendre un service aux citoyens. On voit bien les difficultés dans les gares parisiennes des dernières semaines, on l'a prouvé, mais le réseau secondaire ferroviaire français dans un état vraiment qui prête à question. Et puis, on a une société qui perd, la SNCF, qui perd 3 milliards tous les ans. Donc, qui continue à creuser un déficit avec un service qui a plutôt tendance à se dégrader. Donc, à un moment, il faut faire un stop. Il faut se dire, voilà, on a besoin d'une SNCF forte. C'est fondamental. Dans l'organisation de notre pays, dans l'organisation des mobilités de notre pays, c'est vraiment, le ferroviaire est vraiment la voie de maintenant et de l'avenir. Mais à côté de ça, on a un système qui est un peu dépassé dans l'organisation même de la société, dans l'organisation des métiers de la société. Donc, on a besoin d'agir vite, on a besoin d'agir fort, mais on a besoin d'agir en concertation avec l'ensemble des acteurs. C'est ce qui est fait, c'est ce qui est discuté à l'heure actuelle avec les partenaires sociaux. Et puis, je dirais que le rapport Attali est assez...
Le rapport Spinetta.
Spinetta, pardon, Attali. C'est l'autre rapport. On a des rapports toutes les semaines. Mais le rapport Spinetta, pardon, est un rapport qui est assez clair. C'est un rapport qui explique bien, d'ailleurs, sans être à charge, qui explique bien ce qui se passe. Mais c'est, au fond, la plupart de ce qui est préconisé à l'intérieur, nous le savons bien, et tout le monde le sait. Donc maintenant, il faut juste avoir le courage de mettre en application les réformes dont notre pays a besoin.
Avec un bras de fer, si nécessaire. On sait que quand on s'attaque au statut des cheminots, il y a souvent des grèves. Ça ne sera peut-être pas très populaire pour l'opinion publique.
Ce qui est impopulaire, ce qui est clairement impopulaire, c'est le monde politique qui ne fait pas les réformes, qui cherche finalement, dès que ça devient un peu difficile, choisit plutôt une autre voie, celle de l'attente. Les autres régleront. Nous avons choisi une autre voie parce que nous sommes une majorité un peu différente des autres. Nous avons été élus pour faire. Donc nous faisons ce pourquoi nous avons été élus et les réformes dont le pays a besoin. La réforme de la SNCF, la société de la SNCF a besoin de cette réforme. Nous ferons cette réforme.
Alors le président Macron, Sylvain Maillard, s'est fait élire comme le président du pouvoir d'achat. Certes, les salariés du privé ont vu leur net augmenter, mais depuis le mois de janvier, les retraités ont vu aussi leur pension diminuer. Est-ce que vous ne trouvez pas la mesure un peu brutale pour les retraités?
Même à ce micro-là, j'étais à ce micro devant vous, Et j'avais parlé déjà de la CSG, de la hausse de la CSG. On l'a dit pendant la campagne électorale. On demande un effort générationnel à ceux qui ont plus. C'est-à-dire un retraité, en fait, avec la baisse puis l'abandon total de la taxe d'habitation, un retraité tout seul qui a un revenu supérieur à 2500 euros. Est-ce que ça fait 2500 euros, ça vous fait quelqu'un de riche? Non, évidemment. On demande un effort générationnel à cette génération parce que 23% des Français qui travaillent, à l'heure actuelle, sont au SMIC, gagnent 1100 euros. Ils ont une famille à élever, construire une vie, et on a besoin qu'en France, le travail paie plus. Et donc, nous avons fait un choix que nous avons assumé pendant la campagne électorale. Ensuite, il y a parfois un décalage entre les annonces et la réalité du terrain. Évidemment, la taxe d'habitation, par exemple, la baisse de la taxe d'habitation, on la verra qu'en octobre. Alors que la hausse de la CSG, on la voit tout de suite. Mais par contre, ceux qui ont une fiche de paye, ceux qui travaillent à l'heure actuelle, l'ont vu des débuts janvier, alors ça se voit début février sur la première fiche de paye, mais une hausse de leur net. Ça, c'est concret. Et il y aura une accélération à la fin de l'année en octobre, parce qu'il y a une première hausse de 2% et une hausse supplémentaire de 1%, un peu plus de 1% en octobre.
Je voudrais vous faire réagir à un propos tenu samedi par le député La France Insoumise, Adrien Quatennens. Selon lui, il faut toujours traduire le macronisme. Libérer les énergies veut dire faire des cadeaux aux riches. Fluidifier le dialogue social veut dire faciliter les licenciements. Réussite des étudiants veut dire sélection à l'université. Est-ce que finalement, le gouvernement est en train de réaliser les rêves les plus fous du MEDEF?
Moi, je pense que nous appliquons une politique qui est profondément juste, c'est-à-dire de libérer les énergies pour mieux protéger. C'est très simple, on a besoin dans ce pays, on est englué dans des carcans où ceux qui sont pas nés du bon côté, alors pour un élu parisien, du bon côté du périphérique, sont cantonnés à rester du mauvais côté du périphérique. On est dans une société où on sent bien qu'il y a une sclérose et peu d'évolution possible. Finalement, peu de rêves réalisables. Nous, ce qu'on veut, c'est libérer les énergies. Que partout, on puisse se dire, il puisse y avoir une évolution, que ce soit pour chacun dans l'apprentissage dont on parlait, mais qu'il puisse y avoir une évolution, qu'on puisse avoir tous réalisé nos rêves, qu'on puisse donner les moyens de réaliser nos rêves. Mais c'est une société de droits et de devoirs. Ce qu'oublie mon collègue Quatennens, c'est que c'est une société de droits et de devoirs. Lui, il n'y a toujours que des droits. Il n'y a jamais de devoirs. Non, il y a des droits et des devoirs. On va mettre plus d'argent. Pour la formation professionnelle, on va mettre beaucoup plus d'argent. On va faire ensemble, on va réformer Pôle emploi, on va réorganiser vraiment la formation professionnelle. Mais à côté, il y aura des devoirs. Et les devoirs, c'est que si on refuse deux offres d'emploi, il y aura une baisse des indemnités chômage. C'est logique, une société de droits et de devoirs.
Alors, on va parler de la loi immigration et asile présentée la semaine dernière par Gérard Collomb. Le ministre de l'Intérieur a mis en avant son caractère humaniste. Quand on est humaniste, est-ce qu'on peut accepter de doubler la durée de rétention des étrangers en situation irrégulière?
D'abord, quelle est la situation? Il faut revenir, pourquoi nous faisons une loi? On parlait tout à l'heure, pourquoi on fait une loi? On fait une loi parce qu'à l'heure actuelle, on accueille très mal, les étrangers en France. C'est ça la réalité des choses. Que vous ayez le droit d'asile ou pas le droit d'asile, rien n'est organisé pour vous. Cours de français quasiment inexistant. On a une autorisation de travail au bout de X mois qui fait de vous quelqu'un de presque oisif à attendre, si vous avez de la chance, dans un hébergement parfois presque insalubre, si vous avez un hébergement. Bref, on est dans une situation où on a fermé les yeux en disant finalement, un étranger qui arrive... n'a pas les droits, l'humanité. Arriver pratiquement en France faisait que l'intégration se faisait automatiquement. Ce n'est pas la réalité des choses. Donc nous, on a pris une décision qui est, je crois, assez courageuse. C'est de dire, ceux qui ont le droit d'asile doivent être beaucoup plus accompagnés. Ça, je salue le travail de mon collègue Aurélien Taché, qui a fait un rapport très équilibré, 72 propositions, avec des cours de français, l'autorisation de travail immédiate. Puisque si vous avez le droit d'asile, vous avez une possibilité d'avoir le droit d'asile, c'est que vous faites partie de notre communauté. Donc vous avez le droit de travailler, vous avez le droit de construire votre vie. Ça, c'est très important. On attendait beaucoup trop. Par contre, si vous n'avez pas les prérequis pour obtenir ce droit d'asile, vous avez vocation à retourner dans votre pays. Et à ce moment-là, il faut qu'on applique la loi, tout simplement.
Pluriel, animé par Loïc Barrière.
Retour sur le plateau de Pluriel, nous sommes toujours en compagnie de Sylvain Maillard, député de Paris La République En Marche. Avant la pause, on a commencé à évoquer cette question de l'immigration. Une députée de la majorité, Naïma Moutchou, s'est rendue dans un centre de rétention. Elle a été choquée par la saleté des lieux. Une autre de vos collègues, Yaël Braun-Pivet, s'est-elle interrogée sur la nécessité de prolonger la durée de rétention, d'autant que les lieux ne sont pas adaptés. Tout de même, ces centres de rétention, est-ce qu'ils sont dignes de la France ?
Vous savez, j'étais il y a quelques semaines dans une prison à Poissy. Mais comme dans d'autres prisons, est-ce que c'est digne de la France ? La façon dont qu'on loge, entre guillemets, nos prisonniers. Je crois que non. Donc, les centres de rétention... Alors, je vous avoue, je fais totalement confiance à mes deux collègues et à leur jugement. Mais il y a plein d'endroits dans la République qui ne sont pas dignes de la République française, soyons très clairs. Mais après, il faut améliorer ces lieux, évidemment. D'ailleurs, Gérard Collomb s'est engagé dessus à dégager un budget pour pouvoir refaire des lieux dignes pour accueillir de façon digne. Ça, je pense que c'est essentiel. Par contre, on ne peut pas partir du principe que nos prisons sont insalubres, donc on ferme les prisons et puis les gens n'iront plus en prison. C'est pareil pour les centres de rétention, et qu'on soit bien clair. Par contre, il y a toujours une volonté profonde dans notre politique, c'est d'accueillir avec humanité les gens et donc de leur donner des conditions dignes. Mais on a une efficacité à trouver dans notre politique migratoire, mieux accueillir ceux qui ont vocation à rester en France.
Mais vous parlez plus de ceux qui ont vocation à rester et moins de ceux qui ont vocation à être expulsés. J'ai l'impression que cela, on n'en parle pas trop et pourtant, vous voulez expulser plus d'étrangers en situation irrégulière.
La réalité, c'est que pour le moment, on laisse les gens rester en France ou en centre de rétention, puis il ne se passe rien. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de travailler, ad vitam aeternam, ou faire du travail au black. En fait, c'est comme ça que ça se passe. Ils ne construisent pas une vie. C'est comme ça que ça se passe à l'heure actuelle. Nous, on appelle un chat, on dit la réalité des choses, on veut accueillir. L'immigration est une chance, moi je vous le dis, l'immigration est une chance pour la France, une véritable chance. Mais il faut qu'on s'en donne les moyens. C'est-à-dire que ceux qui ont vocation à rester font partie de la communauté nationale. Et il faut qu'on donne l'intégralité des possibilités pour développer une vie parce qu'ils sont, ce sont nos frères de vie. Donc il leur faut donner les moyens. Pour le moment, ce qu'on fait, c'est que finalement, on ferme les yeux. On fait semblant d'accueillir tout le monde et on accueille mal tout le monde. On dit, nous, il faut mettre le paquet sur ceux qui ont vocation à rester et les autres ont vocation à retourner dans leur pays.
Alors, Emmanuel Macron veut encourager une réforme de l'islam de France. Pour quelles raisons ? Et est-ce que c'est le rôle de l'État de se mêler de la représentation du culte musulman ? On sait que d'autres responsables politiques l'ont fait, de Jean-Pierre Chevènement à Nicolas Sarkozy notamment. Pas toujours avec succès d'ailleurs.
Alors c'est toujours difficile de répondre à ces questions. Est-ce que l'État doit s'en mêler ? Oui, il s'en mêle quand l'organisation du culte en elle-même n'arrive pas à s'organiser ou s'organise difficilement. C'est comme ça que ça s'est passé, historiquement. Il y a certaines religions qui ont une hiérarchie dans l'organisation même de la religion. Et puis d'autres, le catholicisme, par exemple. Et puis d'autres... la communauté juive, communauté musulmane fonctionne avec des systèmes on dirait comme nous on dit en râteau, c'est-à-dire que chacun chaque imam ou chaque rabbin est dépositaire d'une autorité. Et donc du coup ça rend beaucoup plus compliqué l'organisation et ça peut poser des questions. Alors sur l'organisation de l'islam, on voit bien qu'on est face à des véritables difficultés qu'on a parfaitement pointées, que Nicolas Sarkozy avait parfaitement pointées en son temps, et d'où la création du Conseil il y a quelques années maintenant. C'est tout simplement, il faut qu'on puisse aider à la formation d'imams français, formés en France, selon le mode de vie français. Ça, c'est un des vrais problèmes dans l'islam à l'heure actuelle, où bon nombre de membres du culte viennent de pays étrangers, donc ne connaissent pas forcément la langue ou les coutumes françaises, ou en tout cas ne les appliquent pas forcément dans leur culte. Et puis, à côté de ça, on a aussi une organisation financière à faire sur qui finance les mosquées dans leur construction, mais aussi dans leur fonctionnement. Et donc, on voit bien qu'on arrive à un système qui était d'une bonne idée, le Conseil du culte musulman, mais probablement pas assez représentatif ou pas assez, passer peut-être francisé, passer proche d'un culte purement franco-français.
Est-ce qu'il faut avoir un discours apaisé sur la laïcité en France ?
Oui, je crois. Je crois que c'est important d'avoir un discours apaisé et que chacun ait sa place dans la société française. Moi, je crois que c'est une des choses les plus fortes que j'ai apprises dans ma courte vie politique. C'est à quel point une partie de nos compatriotes ne se sentent pas intégrés dans la société française. Sentent qu'ils sont à côté. Ils ont les papiers. Ils font partie factuellement. Mais en réalité, ils ne se sentent pas intégrés dans la société. Et donc, il faut qu'au fur et à mesure, dans l'ensemble des réformes que l'on fasse, qu'on pense toujours à aller chercher, à aller intégrer l'ensemble de nos concitoyens. Et de savoir dire aussi les choses clairement dans une société, je le répète, de droits et de devoirs. Et donc de donner plus de droits, des droits vrais, des droits pas sur le papier, des droits vrais, mais aussi plus de devoirs. Je crois que c'est ce qui a beaucoup manqué dans notre société depuis des années, c'est-à-dire de faire communauté tous ensemble. Et donc de se dire clairement les choses, ce qui n'a pas toujours été le cas.
Sylvain Maillard, vendredi dernier, le Premier ministre a annoncé un plan de prévention de la radicalisation, des places dédiées aux détenus radicalisés dans les prisons pour éviter la contagion, plus de vigilance sur l'ouverture des écoles privées, des mesures spécifiques dans les programmes scolaires. Est-ce que cela vous paraît suffisant ?
En fait, il n'y a pas de réponse absolue à la déradicalisation. S'il y avait un bouton sur lequel on devait appuyer pour que ça marche, je peux vous assurer qu'on l'appuierait tout de suite, dès demain. C'est compliqué, c'est un sujet très compliqué, ne serait-ce que dans les prisons. Vous savez, il y avait une discussion, je me souviens encore l'année dernière, faut-il que mettre l'ensemble des détenus radicalisés ensemble ou bien les séparer et les disséminer au sein de la prison ? C'était pas tranché cette question, il y a encore quelques mois. Et puis, on a trouvé un consensus assez général qui dit « Non, il faut mieux qu'il y ait des quartiers à l'isolement parce que on n'arrive pas à déradicaliser des personnes au contact d'autres. Au contraire, c'est l'inverse. » Donc, il y a aussi un chemin qui commence pour trouver des solutions. Je pense que ce qu'a annoncé le Premier ministre est un chemin d'espérance. Et j'utilise le mot « espérance », c'est-à-dire qu'on trace un cap sur lequel il faudra au fur et à mesure évoluer, progresser, avancer, mettre de l'argent, mettre des moyens, tout en sachant qu'il n'y a pas encore d'alpha et d'oméga où on sait exactement comment faire. Mais on sait que si on met la volonté, si on écoute les professionnels aussi qui sont au contact, si on écoute et qu'on leur donne les moyens, on sait qu'on arrivera à des résultats. Pas pour tout, c'est pas du 100%, mais en tout cas, en se donnant les moyens, on a une vraie possibilité cette fois-ci d'arriver à un résultat.
Alors Sylvain Maillard, parlons de Paris, puisque vous êtes un député parisien. Anne Hidalgo est en ce moment confrontée à plusieurs difficultés. Le tribunal administratif a annulé la piétonnisation des voies sur berge. Il y a aussi les difficultés de circulation, les problèmes de saleté, les ennuis s'accumulent. La République En Marche est en train de préparer sa succession.
Alors, d'abord, je me réjouis évidemment qu'élu parisien de ce qui arrive, parce que l'idée est la bonne, l'idée de piétonniser. Alors, est-ce que c'était le haut ou le bas de la voie rapide ? Ça, il peut y avoir discussion dessus. Mais l'idée de redonner de moins de place à la voiture et plus de place aux piétons, aux cyclistes dans Paris est la bonne idée. Après, c'est la manière de faire. On a une municipalité autour d'Anne Hidalgo et de ses adjoints, qui est parfois, je l'ai dit, ça a pu choquer, mais très dogmatique, qui en permanence pensent qu'ils ont raison et que l'opposition a de toute façon tort, puisqu'ils sont minoritaires. Et donc, s'en faire sur des process, une organisation qui parfois, on le voit bien, ne va pas fonctionner. On le sait que ça ne va pas fonctionner. Les Vélib, vous n'avez pas parlé de Vélib, mais c'est pareil, c'est exactement l'archétype même d'une idée qui n'est pas travaillée jusqu'au bout. Nous, on dit une seule chose, c'est que notre devoir en tant que La République En Marche à Paris, c'est de construire une plateforme programmatique. Qu'est-ce qu'on veut dire aux Parisiens ? On ne dit pas on est pour ou contre Anne Hidalgo, ça n'a aucun sens. C'est de dire qu'est-ce qu'on veut porter comme projet.
Donc on travaille dessus toute
l'année 2018 avec nos marcheurs, avec les élus La République En Marche parisiens. nous travaillons à une plateforme programmatique pour dire qu'est-ce que nous voulons porter pour Paris, pour le Grand Paris, quels sont les messages, qu'est-ce qui serait différent avec La République En Marche pour avoir une vraie plateforme qui apporte quelque chose de différent. Parce que c'est fini la politique de l'alternance. Ça, c'est terminé, je ne veux plus d'elle, et donc ce sera quelqu'un d'autre. Ça ne fonctionne plus, ça. Les citoyens n'en veulent plus. Il faut qu'on travaille, on a besoin de travailler, et nous travaillons toute l'année 2018 sur une alternative de qu'est-ce que sera Paris demain.
Il y a une idée qui circule en ce moment, rendre les transports publics gratuits à Paris. Ça, c'est une idée qui pourrait vous séduire.
Vous savez combien ça coûte? C'est simple de dire ça, mais combien ça coûte? La réalité, c'est que nous n'avons pas les moyens. Il faut arrêter de dire aussi... moi, d'une façon, d'un principe, je suis assez contre la gratuité. Je trouve que la gratuité, c'est ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Le STIF paye déjà, je peux vous assurer que sur votre ticket de métro, une grande partie est déjà subventionnée.
La France Donc, Insoumise propose par exemple la gratuité dans toutes les cantines
oui,
scolaires.
Il propose un État communiste, c'est totalement aussi une autre philosophie de vie qui est tout à fait différente, où tout serait organisé par l'État. C'est autre chose, c'est un autre projet. Nous, la seule chose, c'est qu'on souhaite des transports en commun propres, des performants, avec une intermodalité, c'est-à-dire qu'on passe d'un transport à l'autre, d'une façon de se mouvoir d'une l'une à l'autre, qui soit facile, bien connecté, relié.
Ce qui n'est pas le cas actuellement, effectivement. Il y a des endroits dans Paris où vous attendez un bus à la sortie du métro pendant une demi-heure.
On, sur les bus, par exemple, il y a une grande réforme du STIF sur lesquels, avec d'autres élus, nous avons travaillé pendant des mois et des mois, de dire de faciliter que les lignes soient moins longues, plus efficaces, avec une plus grande densité. Quitte à avoir moins de lignes, mais avec une plus grande densité de bus, et qu'on n'attende plus 20 minutes, une demi-heure des bus. Et puis, tous les bus, 5, 6, 7, 10 lignes, parfois, passent au même endroit. Et donc là, vous avez des bus toutes les minutes, et puis vous êtes un peu plus loin, vous n'en avez plus. Donc il y a une réorganisation qui est faite, c'est compliqué. J'avoue que c'est vraiment compliqué parce que chacun a des intérêts, chacun veut garder ses lignes. Mais déjà, il devrait y avoir une amélioration. Et là, le STIF, a relativement bien travaillé dessus. Mais ce qu'il faut, c'est qu'une interconnexion entre les métros, continuer aussi le Grand Paris Express, on aura peut-être l'occasion d'en parler, qui est le plus grand chantier du 21e siècle, qu'on sous-estime, et à quel point c'est énorme. Comme travail, qui doit nous permettre de penser à l'avenir. Et puis moi, je milite pour qu'il y ait moins de voitures dans Paris, mais d'un point de vue concret, c'est-à-dire qu'on construise des parkings gratuits dans les grandes gares de banlieue, près des grandes gares de banlieue, comme on peut avoir à Argenteuil, au Val d'Argenteuil, par exemple. J'en prends une au hasard, en 95, que je connais bien. Et où je vais souvent, où on a un parking gratuit, on laisse les voitures, parce que quand vous êtes banlieusard, vous avez besoin d'une voiture. Et donc penser que le banlieusard va abandonner sa voiture, va abandonner la voiture pour faire du vélo pour rentrer chez lui est une ineptie. Il faut avoir des grands parkings pour qu'il puisse laisser sa voiture gratuitement et rentrer dans Paris en transport en commun.
Mais construire des parkings dans les villes de banlieue, ça n'est pas du ressort du maire de Paris.
Eh bien si, en fait. Une partie, parce qu'en fait, on a un fonds de péréquation, 100 millions d'euros, que nous donnons au STIF. La ville de Paris donne au STIF tous les ans, et que nous pouvons demander dedans qu'une partie soit consacrée à la construction de parkings avec, évidemment, soit la gestion du STIF ou de la mairie locale, ou d'un partenaire, tout simplement, de dire on veut tant de places de parking gratuites qui soient construites pour que les voitures restent en dehors de Paris. C'est une volonté politique.
Quand vous voyez les difficultés auxquelles est confrontée Anne Hidalgo, est-ce que vous dites que les planètes sont alignées pour La République En Marche, puisque vous qui êtes des adeptes du « en même temps », vous pouvez plaire à certains élus socialistes actuellement proches d'Anne Hidalgo, et puis aussi à des élus de droite, parce que vous pratiquez cet « en même temps » qui peut plaire.
L'idée n'est pas... de plaire ou de pas plaire, c'est d'avoir un projet qui imagine le Paris pour Paris, hein, mais pour les grandes villes, hein, de toute façon, grandes villes ou moyennes villes, dans toute la France, d'imaginer la ville d'aujourd'hui et de demain. Et je crois que c'est le projet, l'enthousiasme du projet. Évidemment, ceux qui le portent sont importants. Mais il y a aussi qu'est-ce qu'on veut faire, comment on imagine la ville de demain. On a énormément de révolutions techniques qui vont arriver. Le numérique rentre partout et va complètement révolutionner l'organisation citoyenne.
Il y a tout de même une sociologie à Paris. On sait qu'il y a des arrondissements avec des électeurs qui votent plutôt à droite et des arrondissements où les électeurs votent plutôt à gauche. Donc dans ce cas, comment La République En Marche peut-elle réunir une majorité d'arrondissements?
La réalité, c'est que le dernier grand test, ça a été les législatives. On a bien vu que dans les arrondissements dits droite ou de gauche, très très majoritairement, les élus de La République En Marche étaient élus. Donc nous savons que nous...
Vous êtes majoritaire,
Les dernières élections, très largement. En tout cas, les dernières élections législatives, très largement. Mais le problème, il est au-delà d'être majoritaire, c'est qu'est-ce qu'on veut porter. Et donc, nous travaillons sur un message, parce qu'une élection municipale, c'est qu'est-ce qu'on veut pour Paris ou pour les grandes villes demain. Et ça demande un vrai travail.
Vous êtes au début de cette réflexion?
Nous avons déjà commencé depuis quelques semaines, mais ça demande un travail important, parce que Paris, c'est évidemment un budget important, c'est une collectivité qui ne s'appréhende pas d'un coup de plume.
Et vous parliez tout à l'heure du Grand Paris Express. Le prochain maire de Paris, s'il est La République En Marche, il devra intégrer ce chantier du siècle, comme vous l'avez dit tout à l'heure.
Et oui, c'est ce que nous on reproche à Anne Hidalgo, les députés de La République En Marche, les élus en règle générale. C'est le fait d'avoir une sensation d'avoir une frontière géographique, le périphérique, et de pas suffisamment regarder ce qui se passe en dehors. Nous, c'est le Grand Paris qui nous intéresse. Le Grand Paris, Paris avec sa notion du Grand Paris, parce que la réalité, quand vous habitez Levallois-Perret, quand vous habitez Vincennes, quand vous habitez même l'intégralité de la Seine-Saint-Denis qui est tellement proche, c'est que vous détenez une partie de parisienne. Et donc, il faut intégrer des discussions quand on construit le Vélib, quand on construit Autolib. Évidemment qu'il faut qu'on intègre l'intégralité du spectre du Grand Paris. Et donc, il faut réfléchir toujours la mobilité. On parle des mobilités du Grand Paris Express, la mobilité au niveau de ce Grand Paris. Et nous trouvons que la mairie actuelle ne réfléchit pas et réfléchit trop, parfois un peu boutiquière, du Paris intramuros.
Édouard Philippe a arbitré certaines lignes, un calendrier un petit peu qui repousse au calendrier grec certaines lignes. L'intégralité du Grand Paris Express à l'horizon 2030, c'est pas un peu frustrant de devoir attendre aussi longtemps?
Je vais vous faire une confidence. J'avais un peu cette réflexion en disant pourquoi on repousse autant. Et puis je me suis plongé dans le dossier la semaine dernière, un peu avant les annonces, puis on a eu l'occasion de rencontrer le Premier ministre le matin des annonces. En fait, ce dont on ne se rend pas compte, c'est que c'est le plus grand chantier du 21e siècle français, et de loin. On ne se rend pas compte que pour construire ce Grand Paris Express, il faut de mémoire 23 tunneliers. À l'heure actuelle, il y en a 24 dans toute l'Europe. Qu'un tunnelier, il construit 12 mètres par jour de tunnel. 12 mètres. Il ne va pas en faire 25, c'est 12 mètres. Et donc, ça prend du temps. Non seulement ça demande énormément d'argent, plus de 30 milliards pour construire ce Grand Paris Express, mais que ça demande du temps parce que pour construire, c'est quelque chose qui n'a jamais été fait. Par exemple, si vous faites... le tunnel va passer sous des endroits compliqués, vous passez sous la Défense. Il suffit que vous fassiez une mauvaise manipulation. C'est compliqué, c'est la première fois qu'on fait. Eh bien, vous pouvez perdre un an parce qu'il suffit que vous inondiez... ce qui peut arriver, vous perdez une année. Donc il faut bien comprendre que c'est un prototype, le plus grand chantier, c'est en terrassement, ce qu'on va enlever comme terre, ça correspond à 8 pyramides de Gizeh. Il faut se rendre compte de l'importance et que techniquement ça n'a jamais été fait. On ne peut pas aller plus vite, et nous on a regardé sur le chantier, aller plus vite, s'engager comme l'ont fait des majorités auparavant, en fait c'est techniquement... C'est de la poudre de perlimpinpin. Si on pouvait aller plus vite, on aimerait aller plus vite. La réalité, c'est qu'on ne peut pas aller plus vite.
Ça va véritablement changer nos vies, en tout cas.
Oui, évidemment.
Je pense par exemple aux habitants de Clichy-sous-Bois.
Par exemple. Ça fait partie, mais aussi du plateau de Saclay. Ça fait partie d'une évolution de géographie qui vont totalement se récomposer. D'arrêter de passer par Paris pour aller de banlieue à banlieue. C'est cette idée... tout simplement d'un agrandissement d'un grand Paris, d'un très grand Paris au niveau régional, de devenir sur une plateforme géographique qui va s'agrandir considérablement. Et ça, le Grand Paris Express va nous apporter ça.
Je reviens à l'élection municipale, je sais que ça n'est pas tout de suite. Est-ce qu'il va y avoir des primaires au sein de La République En Marche ?
Non, nous, ce n'est pas notre mode de fonctionnement. Il y aura une commission nationale d'investiture, comme dans chaque élection. Et la Commission nationale d'investiture décidera qui sera le ou la candidate pour La République En Marche.
Jean-François Copé préconise une alliance entre la droite et La République En Marche pour battre Anne Hidalgo. Qu'est-ce que vous lui répondez ?
Ça n'existe pas chez nous. C'est-à-dire que nous ne faisons pas d'accord de parti. C'est très simple, c'est dans notre ADN. Ceux qui, des élus de droite, de gauche, d'où ils veulent, c'est de la société civile, ou veulent nous rejoindre,
comme,
ils sont les bienvenus.
Comme pour la présidentielle.
Exactement, ou les législatives, ils sont les bienvenus. Nous sommes un mouvement qui accueille, ils sont les bienvenus. Par contre, il n'y aura pas d'accord de parti.
La nuit de la solidarité organisée par la mairie de Paris a permis de compter le nombre exact de sans-abri qui dorment dans les rues de la capitale, plus de 3000, un nombre bien supérieur à celui qu'avait donné Julien de Normandie. Au-delà de cette polémique sur les chiffres, Sylvain Maillard, est-ce qu'il faudrait réquisitionner certains bâtiments publics pour permettre à ces hommes et ces femmes, ces enfants, de dormir à l'abri et pas seulement par grand froid ?
Alors, on n'a jamais fait autant d'efforts qu'à l'heure actuelle, puisqu'on a ouvert 10 000 places supplémentaires. Et d'ailleurs, je dis à Paris cette semaine, qui va être une semaine de grand froid, qui a déjà commencé
et on le constate,
qui va être vraiment encore plus forte dans les jours qui viennent. Nous avons ouvert, en plus des gymnases, nous avons ouvert depuis hier, on a plusieurs lycées qui sont ouverts toute la semaine pour pouvoir accueillir des lits supplémentaires. Donc l'idée, c'est évidemment que chaque personne qui est sans abri puisse avoir au moins dormir au chaud toute cette semaine. Alors vous posez une question qui est importante, c'est de dire est-ce qu'il suffit d'ouvrir des bâtiments pour trouver une solution pour les sans-abri ? Évidemment que non. C'est plus compliqué parce que nous avons toute une organisation qui est totalement figée à l'heure actuelle, puisque l'hébergement d'urgence accueille finalement tout le monde. Donc on crée des places en plus. Mais sauf que dès qu'on remonte en amont, c'est-à-dire sur des centres qui ont vocation à accueillir plus longtemps les gens pour qu'ils puissent retrouver un travail, puis parfois se re-sociabiliser, travailler en amont, toutes les places sont prises. Et puis alors quand on remonte un peu plus en amont, sur le logement, vous connaissez très bien les problèmes du logement que l'on a à Paris ou dans la région parisienne, c'est-à-dire un logement social qui est très loin des attentes. Dans le 9e arrondissement dont je suis élu, on a 3000 dossiers en attente et on en a attribué 19 l'année dernière. Donc c'est ça aussi la réalité des choses, c'est-à-dire qu'on a un système qui est complètement bloqué parce qu'on n'arrive pas à produire suffisamment de logements sociaux et c'est ce système-là qu'il faut débloquer. Et donc le gouvernement a proposé débloquer 50 000, donc construire 50 000 places par an, tout de suite, 10 000 de places de pension, 40 000 logements en dur, pour qu'on puisse accompagner ce déblocage et pour qu'on puisse réamorcer l'entrée dans un parcours classique, c'est-à-dire un hébergement d'urgence d'un temps ponctuel, puis ensuite un hébergement plus long avec une vraie aide pour pouvoir se reconstruire et ensuite avoir un parcours dans un logement normal et construire une vie normale. Et ça, c'est vrai qu'on a une société qui est bloquée, mais ça ne date pas de nous, on vient d'arriver il y a quelques mois, ça fait bien longtemps que le système est bloqué.
Merci Sylvain Maillard, je rappelle que vous êtes député de Paris, La République En Marche. Bonsoir.
Bonsoir.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.